Bonjour, vous écoutez Radio Réveil avec vous, c'est Christine. Le temps est passé où on doutait que le Christ ait vraiment existé. Aujourd'hui, l'archéologie et l'histoire ont clairement établi que les quelques témoignages païens sur Jésus de Nazareth et surtout les manuscrits du Nouveau Testament sont dignes de confiance. Voilà pourquoi Jésus est devenu un personnage intéressant dans les médias. Beaucoup de magazines lui consacrent des dossiers, quand ce n'est pas un hors-série complet. Mais à part les chrétiens, qui parle de Jésus et pour en dire quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Frédéric Baudin. Et en attendant, le groupe Bash and the Code proclame qu'il lit le livre qui peut changer la vie, la Bible, B-I-B-L-E. Frédéric Baudin possède quelques diplômes en géographie, en écologie, en lettres et en théologie. Il est également auteur de romans et d'essais, dont certains ont été récompensés. C'est un esprit curieux et il aime faire partager ses découvertes au moyen d'une série de causeries très instructives. Un des thèmes qu'il aborde dans ses conférences, c'est celui de Jésus dans la culture contemporaine. Un sujet aussi passionnant que méconnu. Philippe Malidor lui a demandé si Jésus était toujours un personnage intéressant pour l'ensemble de nos contemporains.
Il est évident que tous nos contemporains s'intéressent à la figure de Jésus. Jésus reste tout de même quelqu'un dont on parle dans notre société, sur lequel on écrit. Il y a pas mal d'ouvrages qui sont publiés chaque année. Les grands hebdomadaires consacrent une page, plusieurs pages, parfois tout un volet, tout un cahier à Jésus et à l'image qu'il représente encore aujourd'hui dans notre société. Donc je pense que oui, Jésus continue d'intéresser nos contemporains, alors de façon extrêmement diverse, et parfois c'est une image très éloignée du Jésus des évangiles que l'on peut voir ou lire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, mais c'est quand même toujours Jésus dont on parle.
La question est de savoir qu'est-ce qu'on en prend et qu'est-ce qu'on en laisse, parce que c'est un personnage dérangeant si on le prend en entier. Alors, quel Jésus est acceptable globalement aujourd'hui dans la société française, disons, pour ne pas parler des autres sociétés?
Je vais quand même parler un petit peu des autres sociétés et simplement rappeler qu'au tout premier siècle, on a déjà interprété de façon très différente l'histoire de Jésus. Certains sont allés chercher ou ont inventé des fables, des évangiles dits apocryphes, etc. On retrouve un petit peu le même phénomène dans notre société. Au fond, des gens continuent de parler du Jésus des évangiles. Alors des biblistes, des théologiens, des vulgarisateurs peuvent tout à fait évoquer le Jésus de la tradition chrétienne. Des historiens, d'autres vont le faire d'une manière plus, j'allais dire, spirituelle, parler du Jésus de la foi, du Christ, du Dieu fait homme, si vous voulez. Et puis, alors, d'autres vont s'éloigner de ce Jésus traditionnel, de ce schéma que nous avons l'habitude de lire dogmatique, si je puis dire, sur Jésus, du Jésus à la fois vrai Dieu et vrai homme, et vont parler soit du Jésus vraiment homme, sans du tout parler du Jésus Dieu, ou l'inverse, mais on a un petit peu tous les visages de Jésus. Alors, parmi ceux dont on parle davantage aujourd'hui, je crois que, d'ailleurs, pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que Jésus est un personnage historique. Il a vraiment existé, ce n'était pas aussi évident que ça, il y a encore quelques dizaines d'années, et même moins que cela. Et je crois que tous les historiens aujourd'hui s'accordent pour dire, oui, Jésus est un personnage de notre histoire, donc on va beaucoup parler du Jésus dans l'histoire. Jésus est un homme remarquable, alors ça nous vient aussi du 19e siècle, Ernest Renan, le modèle à suivre, mais bien sûr, là on s'écarte du schéma traditionnel, ce n'est plus tout à fait le Jésus de l'écriture ou de la foi tel qu'on pouvait le découvrir dans les évangiles.
Un cas extraordinaire, c'est celui du cinéaste italien Pasolini. Frédéric Baudin évoque pour nous l'origine de son remarquable Évangile selon saint Matthieu.
Pasolini, au début des années 60, était dans sa période marxiste. Et un soir, il se trouvait à l'hôtel et, ne sachant pas trop comment occuper sa soirée, il s'est allongé sur son lit et il a trouvé sur la table de chevet un Nouveau Testament. C'était une association qui dépose des Bibles dans les hôtels ou les hôpitaux. Et il a ouvert ce Nouveau Testament. Il est arrivé, bien sûr, au premier évangile, qui est l'évangile selon saint Matthieu. Et il a lu d'une traite cet évangile et s'est dit voilà un scénario pour un film. Je vais faire un film sur l'évangile selon saint Matthieu. Et ça nous a donné ce très, très beau film de Pasolini qui aurait très bien pu tourner un tout autre film. Nous présenter un Jésus révolutionnaire, soucieux des pauvres, etc., etc., avec ce message très social des années 60 et de sa période marxiste de Pasolini. Et non, il nous a restitué le Jésus des évangiles, alors à sa manière, avec des plans rapprochés, très longs sur les visages, enfin vraiment le plan du cinéaste et du professionnel qu'il était, et en même temps en suivant rigoureusement le texte de saint Matthieu. Et alors Pasolini prononce lui-même cette phrase étonnante: « Je n'ai rien voulu rajouter au dialogue de saint Matthieu qu'on trouve dans la Bible, et j'ai voulu restituer l'image même de Jésus telle qu'elle nous est donnée dans le texte d'origine. »
Vous êtes un petit peu plus sceptique sur les spectacles de Robert Hossein.
J'ai assisté à deux reprises au spectacle de Robert Hossein en 1980 et en l'an 2000. D'ailleurs, les deux spectacles étaient quasi identiques sur la mise en scène, les décors, les costumes, ce qui était un petit peu décevant. Sur le texte, bien sûr, c'était le texte de l'Évangile, du Nouveau Testament ou des Évangiles, puisqu'il a panaché un petit peu les différents Évangiles synoptiques. Mais bien sûr, là où je suis resté un petit peu plus sur ma faim, c'est justement sur la fin, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais tout de même, la résurrection était totalement occultée, même dans la deuxième version qui avait pourtant pour sous-titre Jésus, la résurrection. Et au fond, Jésus ne ressuscitait qu'à travers l'enseignement de ses disciples. Et on est là assez loin du texte des évangiles et de la notion même de résurrection. Alors, bien entendu, le spectacle de Robert Hossein avait par ailleurs des qualités de raconter l'évangile, ces différentes scènes, des miracles ou des scènes très fortes lorsque Jésus invective les pharisiens ou d'autres scènes semblables. Alors, ce qui m'a aussi un petit peu troublé, c'est cette mise en scène qui faisait participer le public, parmi lequel on distribuait des morceaux de pain au moment de la multiplication des pains. Et là, j'ai trouvé que Robert Hossein voulait créer une sorte de communion un peu artificielle. C'était au moment de la multiplication des pains, on pensait quand même très fort à la communion, à l'Eucharistie, à la Sainte Cène. Et j'ai trouvé là ce souhait, ce désir un petit peu discutable, disons, de vouloir réunir une assemblée tellement hétéroclite, tellement éphémère, pour un moment de communion qui ne pouvait pas de toute façon être très profond.
Est-ce que vous pourriez nous parler de la série Corpus Christi qui était passée il y a quelques années sur Arte et nous dire ce que vous en pensez et comment vous en expliquez le succès?
Alors, en expliquer le succès, Gérard Mordilla et Jérôme Prieur ont été eux-mêmes surpris du succès relatif, puisque c'était diffusé sur Arte, qui n'est pas la chaîne la plus regardée en France, mais tout de même.
Puis la présentation est extrêmement austère en plus.
Alors, la présentation a été austère, et beaucoup de gens, chrétiens en particulier, ont été un peu décontenancés par ce visage morcelé de Jésus, par ces interviews de spécialistes du Nouveau et de l'Ancien Testament d'ailleurs. Ils n'ont pas reconnu là le Jésus de l'Évangile ou de leur foi. En revanche, les non-chrétiens ont réagi assez favorablement. Et c'est là peut-être la grande surprise. Il y a eu là un succès relatif, encore une fois, mais certain tout de même, auprès des non-chrétiens qui se sont intéressés à la démarche de Mordilla et Prieur, qui consistait à essayer de restituer le contexte historique, bien historique, des évangiles et en particulier de la Passion du Christ selon l'évangile de saint Jean. Et c'était de ce point de vue effectivement intéressant, mais un peu déroutant pour les non-spécialistes précisément.
Mais est-ce qu'en partant de ces enquêtes, même contestables sur le Jésus historique, il n'y a pas moyen d'arriver à la foi ?
Bien évidemment, on peut toujours, disons, à partir d'éléments très disparates et parfois assez éloignés même du texte biblique, cheminer vers Jésus et retrouver peu à peu le visage de Jésus, le reconstituer. Mais je crois quand même que, en fin de compte, c'est bien dans l'Évangile qu'on peut se faire une idée très précise de qui est Jésus, de son message, de ce qu'il peut représenter encore aujourd'hui pour nous, et cheminer dans le sens de la foi, de la confiance en Dieu qu'on peut mettre dans cette découverte du Sauveur.
Mais malgré le fait que, par exemple, quelqu'un comme Jean a dit « ces choses ont été écrites afin que vous croyiez », donc il avoue par là qu'il fait un discours, enfin un récit de la vie de Jésus orienté, est-ce que vous pensez que le fait que ces récits soient orientés n'entame pas leur fiabilité en quelque sorte ?
Oui, et pour cette simple raison que les évangélistes n'ont pas la prétention d'écrire une biographie au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Ils font un portrait de Jésus qui est leur maître, hein, qui a été leur maître pendant au moins 3 ans, et qui est nécessairement un portrait très convaincant. Ils ne vont pas décrire leur maître de façon qui ne serait pas vraiment convaincante dans le rapport à la foi et à ce saut de la foi qu'il va falloir effectuer ensuite. Après avoir décrit Jésus comme sauveur, ben il faut croire en lui. Et je pense que ça ne trahit pas par ailleurs les traits biographiques, strictement historiques de Jésus sur lesquels on peut s'appuyer. Le contexte est bien restitué. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a là œuvre de propagande, par exemple. On est sur un autre registre qui est celui du témoignage, et les disciples témoignent de ce qu'ils ont vécu avec celui qu'ils reconnaissent comme leur maître et seigneur. C'est une démarche tout à fait justifiable en ce moment.
Oh, happy day.
La parole est la vérité, nous lisons cela dans la Bible, mais comment accepter cette affirmation, comment y adhérer nous-mêmes ? À notre époque, on est un peu comme saint Thomas, on veut voir et si possible toucher pour croire. Mais de ce point de vue, nous avons beaucoup de chance car depuis le 19e siècle, l'archéologie a fait de tels progrès qu'au moins nous avons la certitude que les textes de la Bible sont bien établis. Nous avons des milliers de bons manuscrits qui permettent de se dire « Eh bien oui, c'est réellement ce que les apôtres ont écrit il y a 2000 ans ». Alors à partir de là, si vous êtes en recherche de Dieu, vous pouvez vous appuyer sur ces documents et peut-être faire comme les auteurs de ces textes, c'est-à-dire rencontrer Jésus-Christ. En tout cas, Frédéric Baudin nous l'a dit, Jésus passionne les gens, il fait partie de notre culture. Reste à savoir si nous voulons bien nous laisser déranger par lui, car sa parole n'est pas neutre. Ce n'est pas un objet d'étude seulement, c'est un message qui nous demande, oui, de changer radicalement, qui veut faire de nous des êtres renouvelés. Si vous souhaitez réfléchir aux propos de Frédéric Baudin, nous vous proposons de recevoir la transcription écrite de notre entretien avec lui. C'est gratuit, voici notre adresse, Radio Réveil. Boîte postale 502, 75666, Paris, CEDEX 14. Je répète, Radio Réveil, boîte postale 502, 75666, Paris, CEDEX 14. Et si c'est plus simple pour vous, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le net, www.parole.ch. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à chacun. Au revoir et à bientôt.